Psaume 19, psaume de David. Hein. Au chef de chantre, psaume David, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leur accent vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tout justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qu'il les observe, la récompense est grande. Psaume 19, verset 13. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Le verset 15. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Que le verset 15 soit notre prière ce soir. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Donc, l'objectif de l'étude de ce psaume, premièrement, on devrait noter deux choses et deux façons dont Dieu s'est fait connaître à l'humanité. Comment Dieu, il se manifestait, il se manifeste toujours en deux façons. Deuxièmement, nous devrions être impressionnés ou émerveillés par la valeur de la volonté révélée de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et troisièmement, pour se rappeler la nécessité de sanctifier et pas seulement d'être pardonné. Ce psaume bien connu de David nous dit comment Dieu s'est exprimé de deux manières différentes. Le retentissement parcourt toute Non, je pense que j'ai perdu un peu. Oui, c'est bon. À travers le livre de la création, la gloire et l'œuvre de Dieu sont connues comme on observe les cieux et le firmament. Jour et nuit parlent au monde entier si les gens vont juste écouter. Mais vous savez, on vit dans les grandes villes où on ne voit pas le soleil. Pendant le soleil brille, on est souvent dans la maison où on est caché derrière le mur dans le lieu de travail. Et ni la nuit où on ne sort pas pour regarder la beauté de la nature, la lune, les étoiles, les étendues du ciel, on ne regarde même pas. On n'a pas le temps pour s'arrêter pour regarder toutes ces choses. La vie que nous menons, c'est telle que On a oublié pratiquement la nature, la création, comment Dieu a fait ces choses. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, je lis de Romains 1, 19 à 21. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Romains 1, 19 à 21. Les gens, ils regardent les cieux parfois. Ils regardent les cieux dans le jour. Mais il y a des messages pour nous. Le soleil se lève le matin et jusqu'à le soir, il brille. Mais dernièrement, on n'a pas vu beaucoup le soleil. On plaignait, mais bon, maintenant, on a le soleil. Et il y a le message. Il y a le message que Dieu a écrit dans les cieux pour nous, puisqu'on peut arrêter pour regarder ce que Dieu l'a fait pour nous, la beauté de la nature. Mais si nous regardons autour de nous, la nature, la création, c'est comme si que Dieu allait nous laisser un livre qui parle de moi. Vous savez, quand les enfants sont très petits, à 2 ans ou 3 ans, on ne donne pas les enfants les livres avec la parole. C'est simplement des images. Il n'y a que des images. Nous avons lu, tous eu ce type de livre. Il n'y a que des images. Mais ça nous suffit. Parce qu'on ne sait pas lire. On ne sait pas lire ce qui est écrit. Mais les images nous parlent. Et c'est, je peux penser, c'est peut-être c'est comme ça. Pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, Dieu l'a quand même donné un livre qui parle de lui. La nature qui parle de son créateur. Hein? Et cette nature, mais c'est nous qui oublions que Dieu, il nous a donné un livre par lequel Dieu il parle, à travers de ce livre. Et deuxièmement, pour illustrer la nature omniprésente de cette révélation, le soleil traverse les cieux d'un bout à l'autre, comme un heureux époux ou un coureur fort, il n'y a point d'endroit caché de sa chaleur. Mais rien n'est, je pense que Ecclésiaste, hein, il dit, rien n'est caché, rien n'est nouveau sous le soleil, rien n'est caché sous le soleil. Tout est dévoilé devant le soleil. Hein. Tout est, donc rien n'est caché du soleil, de sa lumière. Parfois, la lumière, un bout de nuage peut cacher le soleil. On peut plaindre, on peut dire que ah, il n'y a pas de soleil. Mais en fait, c'est juste un bout de nuage qui cache. Mais rien ne peut cacher le soleil. Le soleil illumine toute la terre. Il illumine toute la terre. Hein? Et ça suffit que quand on voyage en avion, ça suffit de monter encore un peu plus haut que le nuage. Il n'y a rien qui cache le soleil. Le soleil brille. Hein? Et de sa chaleur. Mais est-ce que vous avez imaginé que si le soleil ne brille pas pendant une semaine, qu'est-ce que ça va passer? Tout va s'arrêter. La vie va cesser sur cette terre. Il n'y aura plus de vie. Les plantes vont mourir parce qu'il n'y a pas de photosynthèse. Ils vont mourir. Si les plantes elles meurent, il n'y aura pas de nourriture pour les animaux et pour les carnivores. S'il n'y a pas des animaux, il n'y aura pas de choses dans le frigo. Donc, la vie va s'arrêter. La vie va s'arrêter. Donc, le soleil, il est là d'un bout jusqu'à l'autre bout. Hein? Donc, ce que le verset 1, 6, il parle de ça. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'entendu manifeste l'œuvre de ses mains. Vous savez, ça nous dépasse. Quand souvent, on ne réfléchit pas assez, on ne contemple pas assez, puisque ces choses peuvent nous dépasser. Hein, quand on dit que la vitesse de lumière, c'est presque 300 kilomètres, hein, 186 miles, 1000 miles en anglais, c'est presque 300 000 kilomètres, hein, la vitesse de lumière. C'est-à-dire, quand on, par seconde, hein, pardon, quand on dit comme ça, la lumière, il a voyagé 300 000 kilomètres. Et la distance entre les étoiles, il y a plusieurs, en anglais encore on dit light years, années-lumière, merci, années-lumière. Il y a plusieurs années-lumière entre une étoile et une autre. Mais on voit des milliers d'étoiles. Hein, mais les psalmistes, c'est la raison de dire dans le psaume 8, quel homme que tu penses à lui. Quel est l'homme que tu penses à lui. Le soleil, c'est, on dit que c'est la plus grande étoile ou l'étoile la plus près pour nous. Mais notre univers, l'étendue des cieux, hein, le ciel raconte la gloire de Dieu, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour, on instruit un autre jour. La nuit, on donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Il n'y a pas de son, c'est la parole du silence. Et c'est, pourtant, ces choses-là nous parlent sans cesse, tout le temps. Ils nous décrivent combien grand est notre Créateur, combien grand est notre Dieu. Le retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde. Il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil est semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière, avec la joie d'un héros, comme un sportif, comme un coureur qui il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Ça pour nous, quand le psalmiste décrit le soleil, peut-être il a au fond de sa pensée, il a pensé au Seigneur qui est le soleil de justice, hein, comme il est décrit en Isaïe. Soleil de justice, rien n'est caché devant lui. Hein, il voit toutes choses et rien n'est caché devant lui. Et alors que l'on peut apprendre la puissance de Dieu et le fait de sa divinité à travers la nature, nous apprenons de sa volonté pour l'homme qu'à travers de son livre de révélation. Je parle le livre de révélation. Comment Dieu, on peut dire qu'il l'a révélé par deux livres. Un livre, c'est la Bible que nous tenons dans la main. Et l'autre livre, c'est le livre de la nature que Dieu l'a laissé pour tout homme. C'est-à-dire la parole de Dieu. En utilisant les différents synonymes de la parole de Dieu, il utilise le... Est-ce que vous avez remarqué combien de mots il utilise le psalmiste dans ce psaume pour la parole de Dieu? Bon, vous pouvez chercher après. Il y a le mot témoignage, loi, statut, hein, la crainte de Dieu. Il y a à peu près 6 mots pour décrire la parole de Dieu. C'est le synonyme que le psalmiste a utilisé pour décrire la parole de Dieu. David vante sa vertu et son impact sur l'âme et le bien-être de l'homme. Il loue sa valeur comme valant plus que beaucoup d'or, plus douce que le miel. Versets 7 à 11. Le psaume se termine par une prière qui est une réponse appropriée de quelqu'un qui a été influencé par les deux livres. Reconnaître le défi de connaître ses propres péchés secrets et le danger de pécher présomptueusement, David prie pour la purification et l'aide afin qu'il soit irréprochable et innocent. Mais il désire plus que le pardon. David prie pour que ses paroles et ses pensées futures soient toujours acceptables aux yeux du Seigneur, source de sa force et sa rédemption. Et premièrement, nous voyons la gloire de Dieu dans la création. Et premièrement, c'est déclaré par le ciel. Le ciel raconte la gloire de Dieu. et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Les jours et les nuits parlent de sa connaissance, sa sagesse, l'omniscience de Dieu. Un tel discours est universel. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leur accent va aux extrémités du monde. Et deuxièmement, c'est démontré par le soleil. Le ciel est comme un tabernacle pour le soleil. Le ciel entier, c'est comme un tabernacle pour le soleil. Je ne sais pas combien de vous avez regardé ce film Narnia, quand Aslan, le lion, qui symbolise Christ dans ce livre imaginaire, histoire imaginaire, quand il sort de son tabernacle, hein, quelle majesté, hein, le soleil, le ciel est comme un tabernacle pour le soleil. Bon, il faut toujours rappeler que le livre de Psaume, c'est la poésie par excellence. Hein, il faut beaucoup d'imagination pour comprendre. Il y a quelqu'un qui a dit que le livre de Psaume, c'est le meilleur de poésie dans la littérature. Et il y a beaucoup de poésie. Je pense que beaucoup de beauté s'est perdue avec la traduction. Quand on traduit une langue, on massacre la beauté de la poésie. Donc, certainement, nous ne comprenons pas toute la beauté, mais on peut parfois rester sur un psaume pour admirer le mot utilisé. Pourquoi il a utilisé le mot tabernacle? Pourquoi le soleil il est décrit ainsi, hein? Le soleil passe à travers le ciel comme un époux sortant de sa chambre. Comme un homme fort se réjouit en prévision de sa course. Parce que le course du soleil, je ne sais pas, le soleil, il fait tour de la terre, non? C'est la terre qui fait le tour du soleil. Hein? Mais dans la poésie, il faut oublier la physique un peu. Hein? Et il faut savoir apprécier la beauté de langage. L'effet du soleil est universel. Ce que nous devrions retenir, l'effet du soleil est universel. D'un bout à l'autre ciel, à l'autre du ciel, rien n'est caché de sa chaleur. Et après, on voit le don de Dieu dans la révélation de la nature. Et le verset 8 à 10, nous voyons la vertu de la parole de Dieu. La loi de l'Éternel est parfaite et restaure l'âme. Hein? Ici, le psalmiste il parle de la révélation que Dieu a fait dans sa parole, la Bible. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Mais combien de fois, quand nous lisons la Bible, parce que nous ne comprenons pas certaines choses, on pense qu'il y a un problème. Mais le psalmiste il dit, la loi de Dieu est parfaite. Et plus important, il restaure l'âme. La loi de Dieu est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Le témoignage, ici, la loi, vous voyez, six synonymes que le psalmiste utilise. La loi de l'Éternel, le témoignage de l'Éternel, les ordonnances de l'Éternel, les commandements de l'Éternel, la crainte de l'Éternel, le jugement de l'Éternel. Entre le verset 7 et 9, on a tous ces attributs. Hein? Donc, le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. C'est maintenant que je pense. La Bible parle, il faut au moins deux témoins pour toute chose. Je pense que Dieu l'a laissé deux témoins, sa parole écrite et la parole qu'on trouve dans l'étendue du ciel, qui témoignage de l'amour de notre Sauveur, la grandeur de notre Seigneur. Et troisièmement, les ordonnances de l'Éternel sont droites. Mais bien souvent, le gouvernement, il peut passer l'ordonnance, tout le monde n'est pas d'accord, parce qu'il pense que ce n'est pas juste, ce n'est pas droit, que ça peut pénaliser une partie de la société, et il peut faire profiter d'une autre partie de la société. Mais ici, la parole de Dieu, les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Mais quelle beauté, quelle beauté. Mais je ne sais pas combien de fois quand nous lisons la Bible, mais on garde ça dans notre tête. Pour dire que ce que on est entre, quand Moïse il a approché le lieu saint dans le mont de Sinaï, hein, le Seigneur lui dit attention, tu approches le lieu saint. Et je ne sais pas combien d'entre nous on approche la parole de Dieu avec une certaine révérence et de la crainte. On oublie tous ses attributs. Hein. Elle restaure l'âme, il rend sage l'ignorant, elle réjouit le cœur. Il éclaire les yeux, elle subsiste à toujours. Ils sont tous justes. Toute la parole de Dieu. Et David a pu écrire ce psaume, je pense, que parce qu'il était berger. Bien souvent, il était dans le champ en train de garder son troupeau. Hein? Il était dans la montagne, il était dans la forêt. Même quand il était pourchassé comme un rat, je pense que c'est ça le mot utilisé par... par l'écrivain, par Saül, hein, le roi Saül, il était souvent, mais je ne sais pas quel moment il a écrit ce psaume, mais il a pu voir la merveille de Dieu. Et le verset 11 au 12, il démontre la valeur de la parole de Dieu. Le verset 11 au 12, ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Mais récemment, j'étais en Inde, donc j'ai visité, c'est pas pour acheter pour moi, j'ai visité les bijouteries. Et en Inde, c'est une grande chose, les bijoux. Hein. Tout le monde porte les bijoux, le chéri, l'or. Donc j'ai vu beaucoup l'or. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Je ne sais pas combien de personnes entre nous, on a vu le rayon de miel qui coule de nid d'abeille. Hein. C'est pur. Mais souvent, c'est le miel qu'on mange, je pense que c'est caramélisé, il y a beaucoup de sucre. Mais c'est normalement, ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qu'il les observe, la récompense est grande. Mais on peut décrire la parole de Dieu comme le miel, comme l'or, on peut dire tout ça, de belles paroles on peut utiliser. Mais la parole nous dit ici, pour qu'il les observe, la récompense est grande. Et regardez les versets 13 à 15 maintenant. Et c'est la prière de David pour la purification. Et ici, la difficulté de comprendre, connaître ses erreurs. Hein? Comprendre pour connaître ses erreurs. Qui connaît ses égarements? Qui connaît ses égarements? Et parfois, n'est-il pas vrai que nous sommes très sûrs de nous-mêmes? On pense qu'on connaît tout. On pense qu'on n'a pas besoin de conseils. On n'a pas besoin de conseils des autres frères et sœurs. On est trop sûr de nous parfois. Et ici, la difficulté de comprendre, connaître ses erreurs. Deuxièmement, plaidoyer, David plaidoie pour la purification des fautes secrètes. Des fautes secrètes. Et qu'est-ce que c'est ces fautes secrètes? Les péchés, donc, on n'en a pas conscience. Mais vous reconnaissez les fautes qu'on peut... les péchés, appelons-le péché, les péchés. Hein, les péchés qu'on peut commettre et de ne pas être conscient. Parfois, on n'est pas conscient de certaines choses. On ne savait même pas que... Parfois, je trouve que... Parfois, il y a des gens, même des chrétiens, ils utilisent certains mots qui sont normalement des gros mots. ça ne devrait pas être moi qui vous dis, parce que moi je ne savais pas. Parfois, j'ai utilisé des mots que j'ai appris dans la rue, parce que je n'ai jamais appris français à l'école. Je ne connais pas la langue. Donc, j'ai appris... par les usages des gens. Donc, j'ai appris certains mots. Je ne savais pas. J'ai utilisé ces mots. Et parfois, ma femme, elle m'a corrigé. Ah non, on ne dit pas comme ça. On ne dit pas comme ça. Et péché, donc, on n'a pas la conscience. Bon, je suis assez simple pour dire que les mots qu'on peut utiliser, non. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on utilise, on fait, qu'on n'est même pas conscient que c'est un péché. Et ce n'est pas par rapport à notre société, nous allons mesurer notre péché. Parce que ce qui est péché dans une société française, ça peut être pas un péché dans notre société. Et c'est par rapport à notre Dieu qu'on devrait voir. Donc pour connaître c'est quoi un péché, on devrait regarder dans la parole de Dieu. Et la mesure, hein? Et c'est par rapport à ce que Dieu le voit comme péché. Donc, plaidoyer pour la purification de fautes secrètes. Péché, donc, on n'a pas conscience. Et après, dans le verset 14, David, verset 13, « Qui connaît ses égarements, pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. » D'accord. Donc, ici, David, il fait une prière pour la prévention, de stopper, de commettre des choses qui n'est pas agréable devant Dieu, qui ne sont pas correctes devant Dieu. Et plaidoyer pour être tenu à l'écart de la domination des péchés présomptueux. Péché, donc, on est conscient. N'est-ce pas, dans la prière du Seigneur, le Seigneur nous a enseigné je pense que vous savez c'est quoi. Mais délivre-nous de la tentation. Délivre-nous de la tentation. Donc, ça devrait être notre prière. Parce que, Seigneur, garde-moi de faire certaines choses que je ne devrais pas faire. Plaidoyer pour être tenu à l'écart de la dominion des péchés. Certes, le chrétien, il peut tomber dans le péché, mais si un chrétien, il vit sous la dominion des péchés, il y a un problème. Il y a un problème à traiter. Il faut, premièrement, si on est malade, on devrait accepter qu'on est malade. On ne peut pas aller dire au médecin que non, je vais bien, mais donne-moi le médicament. Il n'y a pas de traitement pour ce type de personne. Donc, nous devrions confesser notre incapacité et nous devrions demander au Seigneur de nous garder de péchés présomptueux ou péchés dont on est conscient et de ne pas être sous la domination des péchés. Alors, on sera reprochable, irréprochable et innocent d'une grande transgression. Et je pense que David, il savait ce que c'est. David, il a tombé dans le péché présomptueux, prémédité. Hein. Il a fait des choses très, très méchantes, préméditées. Il ne peut pas dire que je ne savais pas. Il savait très bien ce qu'il faisait. Et à la fin, le verset 15, c'est une prière pour la perfection. Que les paroles de sa bouche et la méditation de son cœur soient acceptables à ses yeux, aux yeux de Dieu. Reçois, verset 15, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. On peut faire les belles prières, mais la parole de notre bouche, mais est-ce que ça vient de notre cœur? Est-ce que notre langue est liée à notre cœur? Aujourd'hui, nous allons prier à toute l'heure, mais on devrait voir si notre langue elle est vraiment attachée à notre cœur. Il est complètement détaché, il peut dire n'importe quoi, et après c'est fini. Vous savez, j'aime bien cet verset qui décrit la prière d'Anne dans le premier livre de Samuel, hein, premier chapitre. Anne a prié dans son cœur et ses lèvres le bougeaient. Hein. Donc, c'est ça la prière. C'est ça la prière. Ce n'est pas seulement ce qui vient de nos lèvres. Et donc, que la parole de notre bouche et la méditation de notre cœur soient acceptables à notre Seigneur, notre Dieu. Et la prière devrait être adressée au Seigneur, la source de notre force. Force, c'est le rocher, il utilise le mot rocher, et de notre rédemption. Et David le dit, mon libérateur, mon libérateur. Matthieu 24, 34, je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le psalmiste l'a décrit, le soleil, les cieux, la nature, la grandeur de la nature, le splendeur de la nature. Mais le Seigneur Jésus l'a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Un jour, le ciel et la terre ils passeront, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Le psaume 102, 26, ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement, tu les changeras comme un habit, ils seront changés. Psaume 119, 89, à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Et dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean, nous lisons, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu, dans ce psaume, on voit qu'il a donné deux livres. Un livre qui est écrit dans la nature, puisqu'on peut voir, comme c'est décrit par l'apôtre Paul romain, et on n'a pas d'excuse. On ne peut pas dire que je ne savais pas. Ce serait présomptueux pour dire que je ne savais pas. Mais on n'a pas d'excuse. Donc, ce psaume nous décrit comment Dieu, il se manifeste dans la nature et aussi dans sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole et que on peut dire comme le psalmiste, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur.